L'amour sut de telle sorte à me faire en moi ton portrait, que le peintre le plus doué si parfaitement ne saurait une telle image gravée.
Vous écoutez À l'école de l'oraison, le balado des écoles carmélitaines d'oraison du Québec, saison 2024-2025, intitulé « Faire oraison, c'est » trois petits points, quatrième épisode, décembre 2024, « Quand je fais oraison, je pleure ». Cet enregistrement a été réalisé lors de la soirée mensuelle sur Zoom. Vous pouvez suivre l'actualité des écoles d'oraison sur le site www.lecarmel.org, section Frères, onglet Activités. Bonne écoute.
Je le sais, tu te trouveras dans mon sein figuré, et si vivement saisi, quand te voyant, il te plaira de te voir si accompli. Si par hasard tu ne savais pas en quel endroit me trouver, ne t'en va pas de ci, de là, mais si tu veux me trouver, oh moi, ne me cherche qu'en toi.
Notre approche en quelque sorte, hein, cette année, elle est de regarder non pas ce que nous faisons au sens de ce que nous mettons en œuvre, ce que nous construisons, ce que nous... les stratégies que nous développerions pour faire oraison ou que sais-je. Lorsqu'on a choisi le thème « faire oraison, c'est » puis tous les verbes, là, mais ils ne sont pas exhaustifs, on se l'a déjà dit. Il s'agit toujours, c'est ce que je voudrais aussi aborder ce soir, il s'agit toujours de ce qui a lieu dans l'oraison. Je veux dire par là que même les choses les plus, même les attitudes les plus volontaires en quelque sorte, ou les plus conscientes dans l'oraison, demander, parler, chanter, faire silence. Faire silence, c'est conscient, on veut faire silence. Mais tout ce qui se passe au travers de ce que je viens de décrire est plus large que cela. Et c'est par exemple vrai dans le fait de faire silence, on se l'est déjà dit. Le silence que nous souhaitons dans l'oraison, c'est plus que le chute du faire silence, même si le chute du faire silence est probablement nécessaire. Il y a bien des choses dans l'oraison qui ont lieu, qui sont bien évidemment pas sans rapport avec ce que nous décidons, ce que nous portons, ce que nous souhaitons, ce que nous désirons, mais qui ne s'y réduisent pas, bien évidemment, parce que sinon ça voudrait dire qu'on ferait oraison tout seul. Qui n'aurait pas non seulement un vis-à-vis, mais Dieu n'aime pas seulement un vis-à-vis, il a encore plus qu'un vis-à-vis dans toute cette histoire. Alors ce soir, je voudrais... c'est un peu surprenant, j'ai pas fait de plan, hein. D'habitude je fais un plan, mais j'ai pas fait de plan. Parce que je sais pas exactement comment je vais vous livrer ça, d'autant plus que je tiens tout de suite à dire que ce n'est pas quelque chose que j'observe facilement. Ce soir, je voudrais dire que quand je fais oraison, je pleure. Ça, c'est typiquement pas quelque chose qu'on prévoit. Enfin, on se fait pas pleurer, à moins d'avoir épluché des oignons juste avant de faire oraison, ça peut être une technique, mais si je dis cela, c'est certainement pas quelque chose qu'on prévoit, qu'on peut se mettre à faire. La deuxième chose, je disais à l'instant, mais j'ai coupé ma phrase, il s'avère que si je propose cela, c'est pas que ce soit le fruit de mon observation récente. Ça m'arrive de pleurer durant l'oraison, je suis certainement pas le seul. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé, entre deux âges, qu'importe. Je crois que ça arrive à beaucoup de monde. Enfin, c'est pas seulement je le crois, c'est je le constate, non pas parce que je regarde les gens durant l'oraison, mais parce que il suffit de partager un tout petit peu pour réaliser que ça fait partie de l'oraison. Alors, la première chose, il y a un certain nombre de petites choses que je voudrais dire. La première, c'est que les pleurer ou les pleurs, pas forcément exactement la même chose, je ne vais pas en faire ce soir toute une analyse phénoménologique qui est pourtant passionnante, qui est très belle, une très belle description. Décrire, c'est pas forcément classé, hein. On peut décrire des couleurs sans savoir absolument comment elles se retrouvent dans le spectre, absolument incapable de savoir si le vert est avant l'indigo, au contraire. Donc décrire, c'est pas forcément classé. Il faut pas avoir peur de décrire en, dans la philosophie que je pratique, on décrit beaucoup précisément pour laisser les choses telles qu'elles sont, plutôt que d'imposer tout de suite des idées et des concepts. Reste que je ne vais pas chercher à décrire tout ce qui a trait aux pleurs. C'est un sujet en philosophie, hein, absolument fascinant, entre autres parce que c'est un lieu d'humanité profonde. Ce qui me mène tout de suite à ma deuxième remarque, c'est que mon deuxième point, j'ai ouvert, je savais déjà hein, que Thérèse d'Avila parle des larmes, parce que j'avais été très marqué, l'une des premières fois que j'ai lu Thérèse d'Avila, j'étais au noviciat, donc ça date quand même d'un peu plus de 25 ans, j'avais été très marqué qu'elle en parle. Et du reste, je pense que c'est à partir de ce passage-là, au chapitre 10 et 11, que j'ai commencé d'apprendre de mieux lire Thérèse d'Avila. Comme si quelque chose avait attiré mon attention, puis je m'étais, j'avais pro, j'avais, comment dire, j'étais vraiment devenu à la fois un auditeur et un lecteur de Thérèse d'Avila. Et je suis allé chercher, c'est les outils que j'ai, je suis allé chercher une concordance, un gros bouquin que vous voyez là, il y en a deux volumes, concordance en espagnol, de tous les mots de Thérèse d'Avila. Très pratique ce genre d'affaire. Faut pas absolument utiliser ce genre d'outil. Mais je suis allé à larmes, lagrima. En espagnol, il y a d'autres mots, mais elle en utilise d'autres, mais elle utilise surtout celui-là. Il y en a quand même. Combien d'occurrences? Je ne saurais pas vous dire, mais il y en a beaucoup, c'est sûr. Or, en relisant, en reparcourant grâce à ça, en reparcourant un petit peu ce qu'elle dit dans le livre de la vie, je vais passer par là, puis je compléterai ce que je comptais dire sur le sujet. En passant par là, comment dire cela? Lorsque Thérèse d'Avila écrit en 1562-63, elle se souvient de la jeune, bah, toute jeune fille, adolescente, grande adolescente, qu'elle était lorsqu'elle est entrée, ou plutôt lorsque son père l'a mise de force à l'internat. Parce que voilà, parce que la jeune Thérèse Avila, la jeune et jolie Thérèse Avila, ça commençait à devenir un petit peu compliqué dans la ville d'Avila, dans la mesure où elle était à peu près le centre d'une cour de plus en plus admirative, en même temps que pressante, voire entreprenante, de jeunes gens et jeunes filles, et surtout de jeunes gens. Donc son père, qui n'avait plus de femme à la maison, qui n'avait plus sa grande sœur, a dit, toi là, on va te mettre en pension, ça va résoudre quelques petits problèmes. Donc elle a été mise chez des Augustines. Qui existe toujours, là, quand on va à Avila, quand on ira à Avila au mois de mai, pour ceux qui vont, on ira, on passera au moins devant, là, les Augustines, et je crois qu'elles y sont toujours, le bâtiment existe toujours, et la dernière fois que j'y suis allé, elles étaient toujours dans ce monastère. Ce qui m'intéresse, c'est que Thérèse relie un petit peu, non seulement son aventure humaine et spirituelle à partir de son enfance et de sa jeunesse, mais elle relie avec beaucoup de. Beaucoup de simplicité. Et je le dis spécialement au sujet des larmes, parce que dans la littérature spirituelle, on en parle beaucoup, enfin beaucoup, on en parle, c'est sûr. Et puis, parfois, on voit des gens surgir avec des citations de Jean de la Croix prises un petit peu à mauvais escient, qui consistent essentiellement en dire méfiez-vous des larmes, parce que c'est comme toutes les manifestations sensibles. C'est foncièrement dangereux, ça vaut strictement rien, mettez ça à la poubelle et passez-vous sur le corps s'il le faut, mais ça, c'est pas de l'oraison. Je ne grossis pas beaucoup, malheureusement, j'ai entendu de certains de mes frères être deux fois plus virulents. C'est absurde pour plein de raisons. Mais ce qui m'intéresse, plutôt que d'essayer de faire des contre-feux, ce qui est à peu près inutile, c'est de voir comment Thérèse, avec la maturité de cette femme donc on est en 1562, elle a 47 ans, avec sa maturité, passe en mémoire des épisodes de son enfance et de son adolescence et ensuite de son âge de ses débuts dans la vie religieuse. Alors la première chose, c'est que elle se souvient que lorsqu'elle était chez les Augustines, pensionnaire chez les Augustines, c'est un épisode de sa vie. D'abord, elle n'y a pas été de son plein gré, c'est sûr là. D'autre part, à l'époque, elle n'a absolument pas envie d'être religieuse, certainement pas, pas question, sûrement pas. Il reste que elle est, c'est drôle, hein, comme une adolescente peut l'être d'une femme, son aînée, puis qui dégage sa maturité, elle est sous le charme de Maria de Bresseño, qui est une des religieuses qui s'occupe des pensionnaires, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Bon. Elle est vraiment sous charme, et en même temps, elle est très rebelle. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que elle dit, alors je l'avais retraduit en français, non, je l'ai quelque part. Elle dit, alors d'abord, elle observe beaucoup, et elle note que voyant d'aventure une religieuse, c'est ma traduction à moi, ça vaut ce que ça vaut, voyant d'aventure une religieuse pleurer durant qu'elle priait, elle en concevait de l'envie. C'est Thérèse qui parle. Alors, c'est encore plus étonnant, c'est que j'ai retraduit une deuxième fois, parce qu'en fait, j'avais pas traduit, j'avais paraphrasé. Elle dit ceci, si je voyais l'une d'entre elles avoir des larmes quand elle priait, ou d'autres vertus, je l'enviais beaucoup. Alors, je ne vais pas développer pourquoi elle dit vertu, ça s'expliquerait là, ce serait un petit peu long, puis ce n'est pas exactement mon sujet. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ce que je veux souligner, c'est que Thérèse n'a pas d'idées préconçues. Et à 40, à 30, 50 distance, elle se souvient que, étant jeune fille, fichue au couvent, malgré, à l'insu de son plein gré, malgré elle, chez les religieuses, elle n'a absolument pas envie d'être religieuse, elle n'a qu'une envie, c'est de ressortir, retrouver ses parfums, ses robes et tous ses soupirants. Il reste qu'elle voit les religieuses prier, bah, elle est obligée, elle est au milieu d'elles. Et ça lui fait quelque chose de voir bah, furtivement, elle observe qu'il y en a une, non seulement elle prie, mais en plus elle pleure, ça la touche. Elle a le sentiment d'être à l'extérieur de ça. Qu'elle est à l'extérieur de quelque chose. Et à 35 ans de distance, elle ne fait pas de commentaire en disant bon, j'étais jeune et sensible. Elle l'écrit, tout simplement. C'est là que je voudrais déjà souligner. C'est ce que je voudrais déjà souligner. Alors, dans le même passage, elle dit la chose suivante, ça c'est assez célèbre parce qu'elle ne l'a pas dit qu'une fois. J'avais le cœur tellement dur que même en lisant toute la Passion, je ne versais pas une seule larme. Comment j'ai traduit ça, moi? Et oui, si c'est. Et cela me causait de la peine. C'est un petit peu curieux, hein. Je vous relis parce que c'est assez génial. J'avais le cœur tellement dur que même en lisant toute la Passion, je ne versais pas une seule larme. Et cela me causait de la peine. Et c'est intéressant parce que là encore, on sent que lorsqu'elle décrit, et je pense que dans sa droiture et son désir de comprendre. En commençant par décrire le mieux possible ce qui lui arrive, hein, je vous rappelle que le livre de la vie s'est écrit pour un confesseur, pour qu'il l'éclaire un peu, pour une personne, c'est pas un manuel, là, c'est pas le chemin de perfection. Elle écrit ça et elle montre bien, elle fait bien ressortir le fait que lorsqu'elle dit Tengo recio el corazón, ça, elle le dit plusieurs fois, ça, quand j'ai le cœur tellement dur. C'est un petit peu aussi par le fait que depuis, son cœur s'est percé en quelque sorte. Son cœur s'est percé. Et l'une des manifestations, c'est un tout petit peu plus loin, c'est pas si longtemps que ça, enfin, si, c'est quand même pas mal de temps plus tard, qu'est-ce que je raconte tout de même, parce qu'elle a 40 ans. Elle est rentrée à 20 ans au Carmel. À 40 ans, elle a cette fameuse. Elle rencontre elle voit une statue du Christ à la colonne, et ça la met, ça la renverse complètement. Pourtant, si vous connaissez un peu l'Espagne, des représentations du Christ souffrant avec voilà, tout ce qu'il faut pour qu'il ait bien souffert, c'est assez classique en Espagne. Hein, donc c'est pas qu'elle n'en avait jamais vu. Hein. Mais justement, ce jour-là, j'allais dire dans la quasi-banalité de voir une statue de plus où on voit le Christ sanguinolent, ça l'a percé, ça a fait mouche. Bon. Ce qui m'intéresse, enfin, ce que je souligne aussi là-dedans, ce que je trouve remarquable, c'est que Thérèse met en scène en quelque sorte cette extériorité. Elle est extérieure à ce qui arrive à cette sœur, à cette religieuse qu'elle voit tout d'un coup, là. Moi, je l'ai vu, là, le cœur des Augustines, c'est pas très grand. Elle a dû le voir au cœur, puis voir cette sœur prier. Elle se sent quasi exclue. Elle se sent à l'extérieur. Et quand elle dit, bah, moi quand je lis la passion, il n'y a rien qui coule, c'est pareil, elle se sent à l'extérieur. Alors, je fais ici une remarque. J'avais dit que je ne ferais pas de typologie, etc. Je voudrais tout de même tout de suite noter quelque chose. Il y a, parce qu'on a tous l'expérience des larmes, il me semble, il y a des larmes qui nous viennent, et qui nous viennent justement, puis on les sent venir, puis elles viennent. Alors, je crois que dans tous les cas, dans les larmes, il y a quelque chose d'irrépressible. Un peu comme le rire, d'ailleurs. C'est un rapprochement un peu curieux, mais il y a quelque chose d'irrépressible. C'est difficile d'y résister. En général, ça a déjà commencé. Alors, on cherche à les retenir, on cherche à contenir, et puis à un moment, comme on dit, ça éclate. Seulement, il y a, et je ne fais que justement, d'où l'intérêt de la description, je ne cherche pas à mettre des valeurs derrière, je ne cherche pas à mettre des cas types, mais il me semble que tous et toutes, on peut reconnaître que, il y a des cas où il y a des situations où ces larmes qui nous viennent sont des larmes qui sont référées à une émotion qui nous est assez évidente. C'est drôle parce que tout à l'heure, j'en parlais avec. Enfin, c'est pas de ça dont je parlais, mais ça me vient à l'esprit au moment où je vous parle. Thierry Joseph me dit qu'il a vu la bande-annonce d'un film d'animation qui promet d'être très beau. Puis il me dit, j'irai pas le voir parce que je vais pleurer. Et comme moi, on est tous les deux sensibles comme des pleurs comme des madeleines. Et c'est vrai que normalement, un film bien fait, quand tout va bien, et quand le réalisateur ou la réalisatrice insiste un petit peu sur la corde sensible, ben normalement, il y a 500 personnes dans la salle qui pleurent à peu près au même temps. C'est prévu. C'est prévu. Y a, bon. Alors, je dis pas ça pour discréditer, hein. Moi, j'ai non seulement je pleure beaucoup, mais en plus j'ai grand plaisir à pleurer quand je regarde un beau film ou quand j'écoute une musique saisissante. Bon. Cela dit, il me semble que dans cette irrépressible larme, ces larmes, elles sont référées à une émotion. Puis le lendemain, puis à la fin, on sèche les larmes et on passe à autre chose. Le caractère irrépressible des larmes n'est peut-être pas aussi flagrant que lorsque les larmes viennent en même temps qu'une situation d'excès ou de surprise qui met en jeu quelque chose de plus profond, qui accompagne un mouvement plus profond dans notre cœur. On est déjà à un niveau de sentiment. Pour que les sentiments se sédimentent, que les sentiments se synthétisent, ça prend du temps. Un sentiment, c'est tout sauf instantané. Une émotion, c'est instantané. Un sentiment, non. Si je dis cela, c'est que ce que Thérèse décrit là, pour l'instant, est une extériorité qui ne lui permet pas de saisir ce qui se passe vraiment dans cette histoire de larmes. Parce que. Jeune fille pour plein de raisons, pas parce que c'est une jeune fille au sens de c'est pas un jeune homme, mais parce que c'est une jeune, c'est une ado, comme toutes les bonnes ados, elle a beaucoup ri, puis elle a aussi beaucoup pleuré, puis pour un petit peu tout, là. J'espère bien, elle est parfaitement humaine. Il reste que justement, ce qui est surprenant, c'est qu'elle voit ça, elle voit, je reviens encore à cette religieuse, elle voit cette religieuse, de toute évidence, la religieuse, c'est pas une ado, là, c'est pas une ado d'Avila, elle sent pas dans le métro d'Avila à se raconter des histoires. Il n'y a pas de métro à Villa d'ailleurs. Et elle réalise que les larmes peuvent avoir une toute autre valeur. Et ce qui est parfaitement extérieur dit quelque chose d'une intériorité qui est inatteignable, qui est invisible. Il y a quelque chose, ce qui m'amène à un autre point, il y a quelque chose d'important dans la question des larmes, c'est que les larmes nous arrivent et elles nous arrivent d'abord pour nous-mêmes. J'ai déjà eu l'occasion de dire que c'est une chance à saisir que de pouvoir faire oraison seul. Alors, ce qui est très, très souvent le cas pour la majorité d'entre vous, tous entre vous, même si vous êtes en famille, en couple, etc., c'est quand même assez. Il n'y a aucune règle qui vous oblige à faire oraison ensemble. Alors que nous, notre règle nous le dit au couvent. Et c'est une force, c'est tout ce qu'on veut, c'est non seulement une force et un signe, mais c'est une expérience très étonnante, parce que c'est pas simplement des oraisons juxtaposées, curieusement. Mais c'est pas ça ce que je veux souligner. La faculté qui nous est quand même donnée dans quasiment toutes les communautés de Carmes et de Carmélites d'avoir au moins une fois dans la semaine la possibilité de faire oraison seule, et Thérèse d'Avila, pour elle, c'est important, hein. C'était déjà dans sa pensée, et on le voit très bien dans le chemin de perfection. Pouvoir se retirer seul pour faire oraison, ça veut dire que cette manifestation que nous ne maîtrisons pas, qui est pour partie irrépressible et qui est très étonnante, que sont les larmes, c'est d'abord une manifestation qui s'adresse à nous-mêmes. Qu'il y ait des gens qui en soient témoins, d'abord, ce n'est pas forcément la chose la plus agréable, quoique s'il peut aussi y avoir des pleurs de joie, et puis, enfin, on peut imaginer plein de choses, mais particulièrement dans ce qui concerne l'oraison. Le fait d'avoir la liberté de pleurer si ça nous arrive, parce que bien évidemment, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui se commande, ça prend la liberté de se retrouver dans un lieu où on est seul. Et ça, c'est important. C'est important parce que j'ajoute quelque chose qui n'est pas dans le sujet directement. C'est comme le fait lorsqu'on est seul dans une, pour faire raison, dans une chambre n'importe où. Ça va aussi avec la liberté de pouvoir parler tout bas, objet de cri, encore que. Nous, on a des ermitages en France. Alors, faut quand même pas trop crier, parce que mine de rien, d'un ermitage à l'autre, il y en a qui ont mis du temps à catcher que, surtout en été, parce que c'est sur la côte d'Azur, en été, avec la fenêtre de l'oratoire ouverte, si vous criez ou vous chantez, ben, le voisin, il le sait. Hein. Pas de problème. Mais c'est pas. Là, je m'égare. Elle est importante, cette question-là, parce qu'on ne prie pas de la même manière lorsque c'est sans témoin que lorsque c'est avec témoin. C'est pas la même façon. Parce que derrière, il y a encore une autre question, le fait que les pleurs aient quelque chose d'irrépressible, bien qu'on cherche à résister, fait tout de suite poser la question, d'accord, mais si je m'y laisse aller, il se passe quoi? Ça fait partie de l'expérience des pleurs, de l'acceptation, que de se laisser aller à pleurer. Il y a pas mal de choses que je dis là qui ont des accroches qui sont psychologiques, bien évidemment, hein. Ce qui du reste me fait tout de suite cerner ce point, ce qui est surprenant dans l'oraison, c'est pas très surprenant dans telle ou telle situation que les sentiments qui sont les miens me poussent à pleurer, que ce soit en compagnie de quelqu'un, devant quelque chose, devant une situation, ou tout seul. La chose qui est plus surprenante dans l'oraison, c'est qu'on ne sait pas forcément d'où ça vient et pourquoi. C'est ça ce qui est surprenant. Alors, il peut y avoir des cas psychologiques, et ça m'est arrivé il y a déjà quelques années, et j'en ai écrit quelques pages, parce que ça peut se produire qu'on ne sache pas quelle est l'origine de nos pleurs. Donc, ce n'est pas forcément tout de suite complètement. Ça n'a pas tout de suite forcément pour raison. Une présence ou une manière d'agir de Dieu. Il reste que dans l'oraison, et ça m'amène encore au point suivant, dans l'oraison, ces larmes qui peuvent nous gagner, et là, j'avais prévu de vous citer plus Thérèse, mais je ne vais peut-être pas le faire, en tout cas pas tout de suite, je disais plutôt que ces larmes accompagnent quelque chose. Je ne cherche pas à donner aux larmes une fonction, une. C'est pas ça mon idée, je crois pas que ce soit possible, je me méfie de cela, enfin je me méfie, je pense pas que ce soit très adroit. En revanche, je cherche plutôt des façons de décrire assez justement ce qui peut se produire. Et il me semble que dire que les larmes accompagnent quelque chose en nous, accompagnent quelque chose qui peut être lors d'une révélation, d'une libération, Bah rien qu'en disant ça, on a brossé déjà, à mon avis, pas mal de situations qui nous arrivent. Une révélation peut être une révélation qu'il nous est difficile d'accepter, au contraire, une révélation libératrice. Hein? C'est à ce titre que je choisis cette expression d'accompagner. Il me semble que les larmes accompagnent quelque chose. Ce qui me fait aussi penser, donc je reviens à mon propos, ce qui me fait aussi penser un petit peu, tel que je vois comment Thérèse va dans le livre de la vie, ce qui me fait donc penser que c'est finalement nous qui acceptons ce que ces larmes accompagnent. C'est nous qui nous rendons, parce que lorsque, après avoir résisté, parfois ça peut être une explosion, hein, on le sait bien. Mais nous nous rendons aux larmes d'un certain point de vue, ben, nous nous rendons, c'est une reddition. C'est une reddition. Je reprends un petit peu Thérèse tout de même, parce que j'y suis allé très vite, hein, cette remarque très étonnante de son adolescence, elle est complètement à l'extérieur, elle se dit, elle en a bas de la chance, la religieuse, de prier, elle pressent qu'il y a quelque chose d'important, mais elle est complètement à l'extérieur, hein, et elle en souffre un petit peu tout de même, hein, faut pas sous-estimer, c'est très mêlé chez Thérèse. Thérèse adolescente, il y a beaucoup de richesse là-dedans. La question de savoir, c'est pour ça que je la cite, la question de savoir si ces larmes sont authentiques ou trompeuses. Lorsque je disais tout à l'heure, j'en connais qui citent Jean de la Croix pour balayer tout ça d'un revers de main, assorti de quelques considérations misogynes, soit dit en passant, parce que ça aussi je l'ai entendu, c'est quand même pas mal. C'est quand même fou, mais c'est comme ça. Lesquels, bah, j'en ai pas spécialement contre mes frères, mais malheureusement c'est eux que j'ai souvent entendu là-dessus. Lesquels commentaires sont assortis de toute façon, enfin plutôt sont appuyés sur l'idée que c'est forcément trompeur. Que tout ça c'est trompeur, parce que tout ça c'est de la sensibilité. En fait, le point il est là, c'est que les larmes c'est de la sensibilité. Bon, bah écoutez, si vous voulez vous anesthésier la sensibilité, c'est votre problème, enfin pour l'humanité ça va poser question quand même là. Et puis surtout, c'est tout à fait péremptoire. C'est tout à fait péremptoire de déclarer cela, c'est prétendre que on sait ce qu'il en est de la totalité de notre être dans l'oraison. Et que à l'avance on saurait quelles sont les j'allais dire les réactions, mais les larmes ne sont pas que des réactions. C'est un petit peu plus complexe que cela, ce qui se produit dans le. C'est plus riche ce qui se produit en nous. Tout ce qui se produit en nous durant l'oraison, nous n'en avons pas à l'avance le détail, entre autres parce que ça met en jeu notre humanité dont nous n'avons pas non plus le fin mot. On n'est pas complètement ignorant concernant notre humanité, mais ça ne veut pas non plus dire qu'on en connaît le fin mot. Sur la question de la possibilité de. Se tromper, etc. Ça a traversé l'expérience de Thérèse. Alors, elle dit un petit peu plus loin, je saute certaines choses. Au chapitre 4, ça va très vite toute cette histoire. Elle parle de cette longue époque, ça a été presque 20 ans dans sa vie de haut et de bas, où elle se met à faire oraison, puis elle abandonne, puis elle reprend, puis elle abandonne. C'est fou, hein. C'est génial parce que Thérèse, c'est la sainte patronne de tous les gens qui s'y reprennent à 44 fois. C'est génial, prier là, en tout cas moi je la prie souvent parce que les résolutions qu'on n'arrive pas à tenir, etc. Mais je joke, mais il faut vraiment prendre conscience qu'elle a vécu ça durant 20 ans. Et on sait tous et toutes que c'est parfois usant pour nous de sans cesse revenir aux mêmes affaires. Alors, elle dit la chose suivante. Et comme déjà. Alors, pardon. C'est donc ce moment où elle. Bah, remarquez, elle va le dire, c'est pas la peine que je glose là. Et comme déjà le Seigneur m'avait donné don de larmes, et que il me plaisait de lire, ça me plaisait de lire, je commençais à prendre des temps de solitude et à me confesser. À mes nouveaux, bah, pas régulièrement, là, mais bah, c'est un progressif. Mais enfin, qu'importe. Hein, comme le Seigneur m'avait donné don de larmes. Je crois que, je vais pas vérifier, mais je crois que c'est la seule fois où elle parle de don de larmes, qu'elle utilise cette expression. C'est pour ça que j'irai pas trop tirer dessus, parce que, pas sûr que, par exemple, je voudrais pas partir, hein, d'abord ce soir, c'est pas un exposé sur les larmes, je veux pas partir sur, par exemple, tout ce que ça représente dans la tradition russe, hein, slave. On va dire en général. Ce n'est pas là que je m'en allais, là. Pour ça que je ne voudrais pas majorer cette question de don des larmes. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'elle parle de larmes. C'est ça ce qui m'intéresse. Et que à ce moment de sa vie, pour elle, c'est un don, c'est une grâce. Et je le prends comme tel. Je vais un petit peu plus loin. Voilà. Elle raconte plusieurs fois. Entre plusieurs fois où en quelque sorte elle se fait récupérer dans le bon sens du terme, il y a quelqu'un qui la ramasse, lui dit bah non, relève-toi là. Elle parle souvent de ces occasions où elle. Là, c'est le cas par exemple. Je communiais, je vous passe le présent, je communiais avec beaucoup de larmes. Ça lui arrive. C'est comme ça. Parce que, pourquoi? Parce que, bah, une fois de plus, elle se trouve au fond du trou, et puis il y a quelqu'un qui la remonte, et puis au travers de ce quelqu'un, elle voit que le Seigneur intervient. Bon. Seulement un peu plus loin, elle dit ceci. Comment. Je voudrais traduire de manière juste. J'étais extrêmement gêné. De ces larmes pardon, abondantes. Bon, attendez, je prends une traduction parce que c'est plus simple. Une seconde. Une petite seconde. On va chercher ça chez. L'abondance de larmes. Oui, elle a complètement pris dans l'autre sens. L'abondance des larmes que je versais sur ma faute me fâchait extrêmement quand je considérais que je ne m'amendais guère. Voilà. La traductrice a complètement retourné la phrase, mais c'est beaucoup plus facile comme ça. Car ni résolution ni chagrin ne m'empêchaient de retomber lorsque j'en avais l'occasion. Ces larmes me semblaient trompeuses. Plus j'en versais, plus grave me semblait ma faute, devant la grande faveur que le Seigneur me faisait de la pleurer et de m'en repentir si vivement. Alors, plus globalement, il y a cette idée que, quand je disais la sainte des 44 fois, là, une fois de plus, elle s'est dit, allez, cette fois c'est la bonne, vraiment, ça j'arrête, ça je laisse tomber, j'y vais, puis pouf, le jour d'après, elle rallume la télé, quoi, pour faire simple. Donc, c'est un petit peu tout ça qui la chagrine, mais il est quand même remarquable qu'elle parle de la question des larmes. Parce que justement, dans ce désir elle mène quasiment une vie mondaine comme carmélite. Enfin, en tout cas, oui, on peut dire des choses comme ça. Là. Pas mal dissipée. Hein. L'un des mots qu'elle utilise le plus à l'époque, c'est l'ospatiatempos, les passe-temps. Et les passe-temps, elle en a pas mal là. Et bon, il faudrait que j'explique pourquoi là, mais il reste que ce qui ressort, c'est que dans ces moments où elle dit, entre autres parce qu'elle fait oraison, parce que ça lui arrive durant l'oraison, quand elle fait oraison, je pouffe! Elle se met à pleurer, elle se met à dire, mais ça n'a aucun sens, pourquoi j'abandonne ça? Pourquoi je laisse ça de côté? Pourquoi je fais les choses que. Hey, c'est pas une grande pécheresse, elle n'a pas dévalisé une banque et puis elle est pas allée au bistrot à 3 h du matin, mais il y a des choses qui sont profondément incohérentes et qui la blessent. Et ce qui est intéressant, c'est que les larmes font partie de ce qui la met en mouvement, de ce qui la bouge, de ce qui la déplace. C'est pas simplement dans sa tête, c'est pas simplement dans sa conscience. Il y a toute une dimension profondément corporelle des larmes. Parce que, encore une fois, les larmes, quand ça se met à se déclencher, on le sait tous, on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas. C'est quelque chose qui nous dépasse. Et en général, on ne se sent pas trop à son avantage. C'est un état qui n'est pas un état qu'on maîtrise. Alors, là, elle est toujours en train de raconter sa vie. Alors, elle revient plusieurs fois là-dessus, mais alors chaque fois, il y a larmes. Hein. Je vous passe les occurrences, mais il y en a pas mal. Et se présente cette fameuse occasion que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est au début du chapitre 9e du livre de la vie. Elle se trouve par hasard dans un ermitage, en fait, ça veut dire un petit sanctuaire, si vous voulez, une petite chapelle. Au monastère d'incarnation, elle se trouve devant ce Christ à la colonne. Encore une fois, elle en a vu plein là, mais là, il y a quelque chose qui se passe et c'est le torrent. C'est Arroyos, c'est le mot qu'elle utilise. Enfin, c'est pas Arroyos, mais c'est quasi. Bah, si, c'est Arroyos. Grandissimo derramamiento. Les vannes sont ouvertes. Et ça va être le tournant dans sa vie. Hein. On est en 1554. Il y a plusieurs choses qui vont se passer dans l'espace d'une année. C'est vraiment le tournant dans sa vie. Alors, a posteriori, on pourrait dire, bon, bah, d'accord, mais enfin, elle n'a pas arrêté de croire à un tournant, puis un jour elle l'a, mais c'est lequel le bon? Bah, ça, on ne sait pas. Ce n'est pas l'intensité des larmes qui lui permet de savoir que c'est le bon tournant. Mais ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Alors. Encore une fois, je ne fais pas une étude complète, ce n'est pas ça mon idée. Ce que je veux souligner, c'est que, là je viens de lire une autre occurrence, d'une part, Thérèse s'est posée la question, enfin se posait la question, elle s'est dit, mais il y a quelque chose d'un peu trompeux. Ces larmes, c'est un peu des larmes de. Enfin, pas des larmes de crocodile, là, mais c'est des larmes un peu trompeuses. Enfin, la preuve, c'est que de toute façon, finalement, le lendemain, ça recommence pareil. Et puis d'autre part, elle dit, c'est ce que je viens de lire là, mais c'est pareil, je ne vais pas vous traduire parce que je suis pas très doué pour traduire du premier coup, ces phrases sont complexes. Elle dit quand même, c'est quasiment dans le même passage, il me semblait que mes larmes étaient, alors, excusez-moi mesdames, mais elle le dit souvent, c'était des larmes de femme. C'est drôle parce que faut faire très attention parce que Thérèse, c'est jamais condamnée d'être une femme, loin de là, certainement pas. Et d'autre part, comment dire ça? J'anticipe en disant cela, mais pour elle, il y a des larmes de femmes telles que les hommes prétendent que les femmes sont des femmelettes. Et puis il y a des larmes de femmes qui sont des vraies larmes de femmes, là, qui ont leur puissance. Si je, je, Je simplifie parce que je ne dis pas les choses de même là, mais Thérèse n'a jamais renoncé à, d'une part, à être femme, et d'autre part, à ce qui lui arrive. D'abord, pour elle, les larmes, c'est pas plus féminin que masculin, c'est ni l'un ni l'autre. Mais elle, dans ce qu'elle vit comme femme, ça fait partie de ce qui fait sa force. Hein, je dis les choses un petit peu vite là, mais parce que c'est pas ça ce que je veux souligner, c'est que dans la phrase hein, continue, mes larmes étaient mujerides, en plus, en lui, c'est un mot qu'elle invente, là, c'est fait sur mujer. C'est des larmes de bonne femme. C'est des larmes de bonne femme. Et les femmes sont en général les premières à juger les bonnes femmes. Elles savent très bien que les bonnes femmes, ce n'est pas des femmes. Et sans force, parce qu'elles n'atteignaient pas ce qu'elles désiraient. Mes larmes, elles étaient sans force, elles n'atteignaient pas ce qu'elles désiraient. Et là, il y a quelque chose de curieux. Parce que Thérèse commence dans ce chapitre, puis ça va continuer au chapitre 10 et 11, elle commence de réaliser, ce que j'ai évoqué d'une autre manière, que ce n'est pas les larmes qui font quelque chose, mais il y a quelque chose qui travaille en nous, que les larmes manifestent et accompagnent, et si je prolonge bah je prolonge pas, mais je la dis autrement, la pensée, ou du moins si je regarde comment Thérèse a opéré, c'est plutôt ça. Accepter ses larmes, plus que cela, s'y livrer, j'allais dire, je sais pas, si les laisser couler, c'est en fait accepter la force qui se déploie en nous. C'est pas la force des larmes comme telles, c'est pas les larmes qui sont fortes, mais accepter les larmes, les accueillir et les accepter, c'est accepter la force qui agit à ce moment-là et qui est de Dieu. Et se blinder. Et je reviens à ce qu'elle le dit au présent, Tengorefio el corazón, hein, j'ai le cœur dur, elle le dit plusieurs fois, à la fin de sa vie, elle continue de le dire. Hein. C'est assez étonnant de dire ça, parce qu'en même temps, toute sa vie témoigne d'un cœur absolument incroyable. Enfin, cette femme, elle est capable d'aimer 10 000 personnes de façon authentique, c'est un peu surprenant quand même. Or, l'une des expériences où son cœur est en quelque sorte... vaincu d'une certaine façon, c'est par ses larmes. Il y a une force qui agit en son cœur à l'occasion de ses larmes. Et ce que j'essaie de dire là, qui n'est pas facile à dire, c'est que je disais tout à l'heure que les larmes sont irrépressibles, mais pourtant c'est les nôtres. C'est les nôtres. C'est la différence avec les larmes d'émotion quand on regarde tous le même film. En Panasonic, THX et tout ce que vous voulez. C'est pas le choix, de toute façon. Vous allez tous rire au même moment, tous pleurer au même moment. Bon, vous regardez Gladiator, puis à la fin, vous pleurez tous, c'est obligé. Après une bonne dose d'hémoglobine, quand même. Alors que les larmes en question, ça peut pas être les larmes du voisin, c'est les nôtres. Et pour que ceux qui s'opèrent à l'occasion des larmes s'opèrent vraiment, il faut accepter cette situation d'être en larmes, être en larmes, d'ailleurs, l'expression est forte, c'est pas simplement verser des larmes, c'est être en larmes. Ben, c'est à peu près ce que j'avais écrit. Les larmes vont triompher en quelque sorte, ou plutôt vont apparaître sans équivoque, sans ambivalence, sans qu'elles se trouvent saisies à la vue du Christ à la colonne. Ça, c'était sa première expérience, et ça ne va pas la quitter. Il y a quelque chose pour ça que, ok, c'était des torrents de larmes, mais il y a quelque chose de particulier qui s'est joué ce jour-là. Mais encore une fois, ce sur quoi je veux insister, c'est que il y a quelque chose de... Il y a à la fois une révélation et une non-possession de cette révélation. Les larmes font qu'en nous, c'est ouvert. Tout est ouvert. Quand on se laisse aller aux larmes, tout est ouvert. Ça ne veut pas dire qu'on a une claire connaissance de nous-mêmes. Ça ne veut même pas dire, et là je reviens spécifiquement à l'horizon, ça ne veut même pas dire qu'on comprend ce qui nous arrive. Ça ne veut même pas dire que c'est pas sous le coup de la réception d'un message absolument exceptionnel ou je ne sais quoi. C'est pas du tout ça. C'est du reste qui peut être assez déroutant. Je parlais tout à l'heure de libération, alors c'est déjà mettre un mot sur quelque chose qui nous arrive, mais il peut même ne pas forcément y avoir de libération ou de révélation. Qu'est-ce qui reste dans ces cas-là? Ben, il reste ce qui est toujours en jeu dans la grâce, l'assurance que c'est la grâce. Ça veut dire concrètement, la grâce, c'est pas une chose, là, c'est pas un réservoir de grâce qu'on nous fait tomber sur la tête. La grâce, c'est exactement le toucher de Dieu. La même où il touche. La même où il touche. Et il est Il n'y a pas de raison à ça, il n'y a pas de conceptualisation. On ne peut pas aller plus loin, à s'en donner autant de concepts qu'on veut, ça ne donnera jamais rien. L'expérience de ces larmes à ce moment-là, qui en plus vont de pair, c'est ça ce qui est assez curieux, elles sont sûres, ces larmes. Elles sont sûres. Sûres de quoi? Bah, sûres que c'est Dieu, mais point, c'est tout. Et même de le dire, c'est déjà trop. D'ailleurs, on ne le dit pas, on le pleure.
Car tu es ma chapelle, ma maison, ma demeure. À tout moment j'appelle, quand je trouve fermée la
Vous avez
porte
écouté
de tes
la quatrième
pensées.
rencontre autour de l'oraison proposée dans le cadre de l'école d'oraison par Zoom. Vous pouvez nous rejoindre pour ces soirées mensuelles. Écrivez-nous à écoleoraisonzoom, tout attaché, à commercialgmail.com pour recevoir les liens de connexion. Cette activité est sans frais. Plus d'informations au sujet des écoles d'oraison animées par la famille du Carmel au Québec sur le site www.lecarmel.org. La poésie Âme ne te cherche qu'en moi de Sainte Thérèse de Jésus est mise en musique et interprétée par frère Pierre-Éliane. Vous pouvez la retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne. Merci de nous avoir écoutés.